Un invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, Tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier des deux volets d'une émission qui reçoit ce soir Serge Laïc, musicien amateur et collaborateur de France Musique. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les arrangeurs de la chanson française », publié en novembre 2018 chez Textuel. Il rassemble 200 entretiens avec ceux qui, dans l'ombre, ont façonné les plus belles pages de la chanson française. On est ensemble et en direct jusqu'à 21h pour en parler. Bonsoir Serge.
Bonsoir. Comment allez-vous, Laurent ?
Très, très bien. Je suis très heureux de t'avoir sur le plateau de l'émission Tour de piste.
On se tutoie, alors.
On se tutoie, évidemment.
D'accord, pas de problème, avec plaisir.
Donc, on va rentrer dans l'intimité de la création avec ton ouvrage. Mais avant de pénétrer dans cette intimité, on va remonter un peu ton histoire et celle qui t'a amené à te lancer dans une telle folie. Je pense qu'on peut parler de folie.
Oui,
plus de 2000 pages
dire,
sur les arrangeurs et les chefs d'orchestre.
Tu peux dire folie sans aucune arrière-pensée.
Les seuls actes qu'on ne regrette jamais, d'ailleurs, d'après Oscar Wilde.
Oui.
L'histoire qui t'a amené, en tout cas, à ce livre, donc un ouvrage en profite victime de son succès, puisqu'il a fait l'objet ce mois-ci d'une réédition.
Tout à fait, qui vient d'être mise en place il y a 15 jours, 3 semaines.
Une preuve qui vient combler un manque. Mmh. Donc à propos de toi, avant de te lancer dans cette aventure, dans quel environnement musical as-tu grandi ?
Alors écoute, petit Serge Laïc, il a évolué dans un environnement tout à fait musical, puisque ses parents, mon père, ma mère, aimaient énormément l'opéra. Et donc, ils allaient souvent dans les plus grands opéras du monde, on va dire, enfin du monde, d'Europe, que ce soit en Autriche, à Paris, à l'Opéra de Paris, évidemment. Ils allaient aussi à la Scala de Milan, en Italie. Donc, c'était vraiment des mordus de l'opéra, et surtout mon père, on va dire, qui a emmené ma mère un peu partout pour le suivre dans cette aventure musicale.
Sauf que tu vas t'intéresser à la variété.
Et oui, c'est complètement à l'opposé, mais c'est aussi de leur faute.
C'est pour embêter ton père, non ?
Mais
c'est
non, pas du tout, puisque c'est eux qui m'ont embarqué dans cette histoire des arrangeurs, sans le savoir, sans le vouloir. Parce que quand j'avais 12-13 ans, donc en fin des années 50, ce qui veut dire que je ne suis pas très jeune aujourd'hui, en fin des années 50, donc au début de avant l'adolescence, on va dire, j'ai reçu une douzaine de 45 tours pour mon anniversaire de 12 ans. Et dans ces disques, il y avait des chanteurs connus comme Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel et autres. Et au dos de ces 45 tours, il y avait toujours le nom du chef d'orchestre. Alors ça pouvait être Raymond Bernard pour Gilbert Bécaud, pour Jacques Brel c'était François Robert et ainsi de suite. Et je me disais, mais qui sont ces gens-là? Je ne comprenais pas et je voulais savoir. Et en fait, on pouvait essayer de savoir, mais il n'y avait pas le moindre document sur ces personnes qui accompagnaient toutes ces chansons que l'on connaît, d'Aznavour et autres. Voilà. Et c'est parti de là, en fait. C'est vraiment parti de là. Chaque fois, je me disais, mais c'est qui ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? C'est impressionnant. Ils font des choses remarquables et on ne sait strictement rien sur eux. Sauf que ce sont d'excellents musiciens, évidemment, manifestement. Mais sinon, tu pouvais chercher n'importe où, tu ne trouvais rien. Voilà. Et c'est parti de là, et avec le temps, j'ai... Chanson de Léo Ferré, d'ailleurs. Et j'ai justement, c'est le hasard absolu, j'ai voulu rencontrer justement l'arrangeur qui avait fait les arrangements de cet extra et avec le temps pour Léo Ferré. Ce fut le premier que j'ai rencontré en 1986, donc beaucoup plus tard. C'est Jean-Michel Defaille, qui est toujours de ce monde, qui va très bien, et qui m'a reçu pendant des heures, plusieurs fois d'ailleurs. Et de là est partie cette histoire, finalement. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ce monsieur qui était pour moi un monstre, hein, extraordinaire. Hein. Voilà, et il a fait tellement d'arrangements pour Léo Ferré qui sont sublimes que j'ai vraiment voulu le rencontrer le plus tôt possible quand j'ai eu le temps de m'occuper de ça, parce que j'avais quand même un autre métier que de courir derrière tous les arrangeurs.
Je rappelle que tu étais chef de la maternité à Évreux.
Exactement, donc j'avais quand même beaucoup de choses à faire et c'était pas facile de se libérer, mais j'ai commencé à le faire. Donc pendant les week-ends, je partais vers Paris, parce que c'est souvent là qu'ils demeuraient, ces gens-là, et j'ai commencé mon aventure avec les arrangeurs de la chanson française, voilà.
C'est le début d'une longue aventure. Alors le métier d'arrangeur, justement, il est assez peu connu. Il était encore moins avant la sortie de cet ouvrage. En quoi consiste-t-il? C'est quoi finalement un arrangeur?
C'est quoi finalement un arrangeur? Je vais reprendre ce que dit Jean-Pierre Sabart, un des arrangeurs de Gainsbourg, et de Jane Birkin et autres, qui m'a dit un jour, quand je lui ai posé la question, celle que tu viens de me poser, c'est quoi un arrangeur? Et lui m'a répondu, c'est quoi un arrangeur? C'est quoi un arrangeur? Mais... vous connaissez les chanteurs, Gainsbourg, Jane Birkin, Florent Pagny et compagnie. Mais il y a du bruit derrière. Je prends son intonation là. Mais il y a du bruit derrière. Eh bien, le bruit, c'est nous. Ben voilà, le bruit derrière les chanteurs, c'est en particulier les arrangeurs qui ont finalement fait l'ambiance qu'il y a derrière le chanteur, qui décore, qui peigne la couleur musicale qui est derrière chacun des chanteurs qui chantent.
C'est ce qui donne le relief, finalement, à une chanson.
Absolument, absolument. Voilà, pour résumer un petit peu ce que c'est qu'un arrangement. Alors, dans un arrangement, il y a aussi l'introduction d'une chanson, quelques notes musicales, quelques mesures avant que le chanteur chante. Il y a aussi un pont musical entre deux couplets. Il y a une conclusion à une chanson, toujours. Un exemple pour ce que je viens de dire. Quand Paul Mauriat, qui a été très longtemps l'arrangeur de Charles Aznavour, a arrangé pour Charles Aznavour donc ses chansons connues comme Je me voyais déjà, comme La Bohème, La Mama et tellement d'autres au début des années 60, pendant la première moitié des années 60, Paul Mauriat me disait, mais moi je ne peux pas, c'est pas moi la vedette du disque, du morceau, des disques qui vont sortir, c'est Charles Aznavour. Mais moi, je m'accorde quand même une introduction qui est à moi. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute « Je me voyais déjà », les premières mesures de « Je me voyais déjà », les notes musicales, on sait, avant même que Charles Aznavour commence à chanter, on va savoir, si on connaît un peu le morceau, que c'est Aznavour qui va chanter. L'introduction de « Je me voyais déjà » est très caractéristique et on sait, grâce à Mauriat, Paul Mauriat, que ce que va chanter Charles Aznavour. Et ainsi de suite. C'est très souvent, et ça a été très souvent comme ça.
On reviendra d'ailleurs sur Paul Mauriat, parce que tu lui avais consacré un premier livre en 2001.
Tout à fait, exactement, tu sais tout.
Alors le métier d'arrangeur maintenant, on sait ce que c'est, il date de quand exactement?
Bah écoute, on va dire dès le début, enfin dès les années 20 on va dire, il y a commencement de cette aventure des arrangeurs dès les années 20, dès 1925, il y avait le disque 78 tours commençait à être... vulgarisé, on va dire. Et de là, de cette époque des années 20, va naître, on va dire, ce métier, hein, qui... Alors, il y a des noms à l'époque. Il y a Pierre Chagnon, il y a Albert Valzien, il y a... Ce sont les premiers, les pionniers, on va dire, de ce métier. Alors, on les retrouve dans mon livre, ces chapitres. Mais là, il n'y a pas d'interview, évidemment, parce que malheureusement, ces gens-là sont décédés il y a très longtemps. Mais j'ai tenu avec des personnes qui m'ont aidé à faire ces chapitres, parce qu'ils ont une connaissance de la période des années 20. On a dans le livre, quand même, quelques chapitres sans interview, donc sans entretien, sur ce domaine de la chanson des années 20. Parce que Maurice Chevalier, Mistinguette, Damia et compagnie, Fernandel, avaient aussi des accompagnateurs, des chefs d'orchestre. Donc, c'est ce que l'on retrouve aussi dans le livre, ces noms-là. Albert Valzien, Chagnon, il y en a d'autres, bien sûr.
Et on retrouve aussi Valberg.
Valberg, à partir des années 30, absolument. Et lui, il a accompagné beaucoup les... Traîné, chante Traîné, Boum, Je chante, Ménilmontant, toutes ces chansons archi connues de Traîné étaient accompagnées par le prodigieux Valberg qui a modernisé les arrangements à cette époque-là parce qu'il aimait beaucoup le jazz, il aimait beaucoup la comédie musicale américaine et il a apporté à ces chansons de Traîné, qui étaient lui-même très modernes déjà, lui-même dans ce qu'il faisait, une touche supplémentaire dans le modernisme finalement.
Voilà. Eh ben, on va faire une première pause musicale avec Charles Traîné.
Formidable.
Un morceau de 1938. J'ai hésité avec Charles Traîné et Marlène Dietrich.
Oui, oui.
Pour qui il a aussi travaillé.
Valberg,
on parlera
oui.
justement de cet esprit de modernité qu'a insufflé cette profession.
Tout à fait.
Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs. Tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la vie dînette, chez sa dînette au bistrot, la pipelette, lis ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant.
Et Et c'était, vous l'avez reconnu, Charles Trenet, Ménilmontant, un charme qui nous paraît aujourd'hui un peu daté, sans rien de perdre de la beauté de ce morceau. Pourtant, à l'époque, c'est extrêmement moderne, les arrangements sont signés Valberg. Qu'est-ce qu'il apporte dans ce morceau-là, Valberg, à ce moment-là?
Il apporte tout son savoir, parce que c'est un musicien formé au conservatoire, donc c'est un musicien qui a une expérience musicale importante, et il apporte ce qu'on a bien entendu d'ailleurs dans ce morceau. Il y a le contre-chant après chaque fois que Trenet chante, et juste après il y a un contre-chant qui souligne ce que vient de faire Trenet en chanson et en chantant, et c'est vraiment le type de travail de l'arrangeur. On a parlé des introductions, on a parlé des conclusions, mais là aussi, on a entendu dans cette interprétation de Charles Trenet dans la chanson Ménilmontant, de ce travail de l'arrangeur avec les contre-chants. Ça, c'est vraiment le travail de l'arrangeur. Et c'est ce qui l'amène, finalement. C'est une musique en plus de la mélodie. Voilà.
Donc le style Trenet,
c'est vraiment, on peut dire que Valberg a bien épousé la modernité de Trenet et lui-même a amené la sienne. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, Valberg était amoureux du jazz, était amoureux de la comédie musicale américaine, donc il avait un sens de la modernité qui a parfaitement épousé celle de Charles Trenet, qui a vraiment révolutionné la chanson dans les années 30. Alors, c'est clair.
Pour la plupart d'entre eux, ils sortent de grandes écoles, souvent du conservatoire, on va le voir,
du
Conservatoire National Supérieur de Paris, rien que ça. Il y a un parcours idéal ou un type de formation idéal pour cette profession?
Non, on ne peut pas dire ça parce que beaucoup d'arrangeurs sont effectivement sortis du grand conservatoire parisien, on va dire. Plus tard, il y a Michel Legrand et beaucoup d'autres, Jean-Michel Defaille, dont on a parlé tout à l'heure, qui a arrangé Léo Ferré, pardon. Mais il y en a d'autres, des très célèbres aussi, qui n'ont jamais été dans les classes du conservatoire, ni de Paris, ni d'ailleurs. On a un exemple criant, c'est Jean-Claude Vanier, qui a écrit énormément pour Gainsbourg et des dizaines d'autres chanteurs. Il n'a jamais mis les pieds dans un conservatoire. Et pourtant, il écrit des choses que personne ne pourrait écrire à sa place. C'est impressionnant. Pour Gainsbourg, c'est lui qui a notamment composé, avec Gainsbourg, Mélodie Nelson, qui est un album de référence dans la discographie de Serge Gainsbourg.
Plus que dans la discographie de Serge Gainsbourg, c'est un album fondateur pour l'histoire de la musique populaire. Même,
tout à fait.
Hein. Même donc, s'il a connu un succès modeste à sa sortie,
mais après ça s'est bien rattrapé depuis une vingtaine d'années. Et donc, ce monsieur Jean-Claude Vanier, il a appris la musique à l'écoute, c'est inné en lui. Il avait acheté un que sais-je pour savoir la tessiture des instruments, savoir quand on écrit pour la flûte, pour le cor et autres, jusqu'à où on peut monter les notes et jusqu'à où on peut descendre. Donc son éducation musicale au départ s'est résumée à que sais-je. Plus son oreille incroyable, puisqu'il entend tout. Il y en a d'autres comme ça. Il y avait Christian Chevalier qui a écrit avec Nougaro Toulouse, la fameuse chanson. Nougaro avait écrit la majeure partie de la musique, mais Christian Chevalier, parfait autodidacte aussi, un grand arrangeur, avait amené quelques notes qui ont amélioré aussi cette musique de Toulouse. Christian Chevalier avait aussi fait l'arrangement de cette chanson, qui est merveilleux. Voilà. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas été dans des conservatoires, mais qui savent, parfois mieux que d'autres, écrire la musique pour la chanson et pour les orchestres qui accompagnent les chanteurs. D'ailleurs, je parlais à l'instant de Christian Chevalier, Toulouse et Nougaro. Beaucoup de confrères de Christian Chevalier m'ont dit, et on le retrouve dans le livre, c'est incroyable ce que c'est bien écrire les partitions de violon, de cordes, Christian Chevalier, alors qu'il n'a jamais appris quoi que ce soit. Et non seulement c'est bien écrit, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire, quand on l'entend, c'est simple, mais quand un musicien veut essayer de comprendre ce qu'a écrit Christian Chevalier, eh ben, il faut s'accrocher, même si on est passé au conservatoire, alors que lui n'y est jamais passé. C'est comme ça, c'est inné. Chez ces gens-là, c'est inné. Voilà.
Et on va pas évoquer évidemment et malheureusement tous les entretiens.
Non, c'est pas possible.
Qui sont dans ton livre. Moi, je pensais aussi dans la profession, parce que j'ai lu ton livre avec immensément d'attention, notamment Bob Castella, sa rencontre avec Yves Montand,
oui.
Dont on avait dit il a été tour à tour pianiste, chef d'orchestre, arrangeur, compositeur. Il a aussi été son majordome, son métronome, son martyr, son coupable, son ami.
C'est vrai.
Le rôle de l'arrangeur, il dépasse le cadre même de la musique.
Pas toujours, non, là c'est un cas extrême quand même, mais c'est vrai que Pierre Bouteiller, le célèbre animateur de France Inter, à l'époque, et très connaisseur du jazz aussi, eh bien, Pierre Bouteiller avait écrit tout cela sur Bob Castella. C'est-à-dire que non seulement il s'occupait de la musique d'Yves Montand, mais aussi de tout ce qui était autour. Hein. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'il est décédé peu de temps, Bob Castella, peu après la disparition de Yves Montand.
Je te le confirme.
Voilà, je n'ai plus la date exacte en mémoire, mais je sais que c'est très peu de temps après. Mais il y en a un autre exemple. Il y a un autre exemple de cette chose, de ce fait-là. Quand on parle de Robert Chauvigny, a été pendant 15 ans l'arrangeur d'Édith Piaf. Édith Piaf est décédée en octobre 1963. Eh bien, deux mois après, Robert Chauvigny, est décédé aussi. Certes, il était très malade, mais tout juste après la disparition d'Édith Piaf, avec qui il avait travaillé de façon incroyable pendant 15 années, toutes les chansons comme Milord, La Golande du pauvre Jean et autres sont arrangées par Robert Chauvigny. Eh bien, Robert Chauvigny est décédé deux mois après la disparition d'Édith Piaf.
Et on va en parler de Chauvigny, parce qu'il a apporté un classicisme rare dans la chanson de variété. Là
totalement,
encore, on
totalement.
Retombe sur le métier des arrangeurs, c'était aussi apporter du savant ou populaire, comme on dit. Hein.
C'est exactement
ça. La musique
ça.
Classique, on dit savante.
Oui, ça a apporté leur lettre de noblesse à la chanson populaire, exactement.
Amateur de jazz, lui aussi, il entre en relation avec Piaf au début des années 40, devient son chef d'orchestre en 47.
C'est ça.
On va écouter La Goualande du pauvre Jean d'Édith Piaf. Qu'est-ce qui va amener Robert Chauvigny à la...
Chauvigny. Bah, il amène chaque fois des instruments un peu spéciaux dans ses arrangements. On va écouter Édith Piaf dans La Goualande du pauvre Jean et on en dira quelques mots après de l'instrument que vous allez entendre dans la deuxième moitié de la chanson. Je vous le dis dès maintenant. Vous allez entendre un instrument que l'on appelle le flexatone. Vous verrez, c'est une sorte de... Vous verrez. Je vous laisse écouter la deuxième moitié, la deuxième minute de cette chanson. Ça donne un son remarquable à l'ensemble. Et c'est vrai que c'est Robert Chauvigny qui a amené cette idée d'utiliser cet instrument archi peu connu qui s'appelle le flexatone.
Est-ce gourdé rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout. Il vivait au jour le jour dans la soie et le velours. Il pionçait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie on n'est pas de balle. Quand notre cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Il becquetait chez des barons, il guinchait dans les salons et lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron, on le saluait bien bas, mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Esgourdez bien jeunes gens, profitez de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois, et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et voilà mes braves gens, la goualante du pauvre Jean. padam, padam, pain, de soin.
Et c'était Édith Piaf, la goualande du pauvre Jean. On a bien écouté, là, on a bien entendu le bruit qu'a ramené chez Édith Piaf Chevigny.
Oui, avec le flexatone, instrument très peu connu, et que un spécialiste d'Édith Piaf m'a révélé, c'est Steve Normandin.
Qui nous écoute ce soir.
Qui nous écoute ce soir probablement, et on le remercie de nous avoir fait remarquer que cet instrument, le flexatone, était vraiment partie intégrante de l'arrangement écrit par Chevigny pour Édith Piaf dans La goualande du pauvre Jean.
Et on va parler de Jean-Claude Ric.
Ah, Jean-Claude Ric, c'est le monstre. C'est lui qui a probablement écrit le plus d'arrangements, et de loin, pour les chanteurs français. Dans le livre, il y a deux pages entières de noms de chanteurs qu'il a accompagnés. Alors, il y a tout. Il y a Aznavour, il y a Sheila, il y a Pierre Perret, il y a tout. Il y a quasiment tout. Pas Brel, parce que Brel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est François Robert qui a quasiment fait tous les arrangements de Brel de 1958 jusqu'à sa disparition. Mais Jean-Claude Ric est vraiment incroyable. Il s'est adapté à un nombre de chanteurs dont le nombre est 200, 300, je ne sais plus.
Et d'ailleurs, voilà. tu titres à la mode pendant un demi-siècle,
c'est
ça. Extraordinaire.
C'est ça, c'est exactement ça. Il a commencé à écrire pour des arrangements pour la chanson française à la fin des années 50, et 50 ans plus tard, et il y était encore. Là, depuis quelque temps, il a arrêté. Il est toujours de ce monde, hein. Il a un âge respectable, on va dire, de notre ami Jean, mais pendant 50 années, il a été au service d'un nombre incroyable de chanteurs français.
Et une collaboration particulièrement longue avec Enrico Macias.
Alors là, oui, incroyable, parce que pas tout à fait dès le départ, mais très rapidement, deux ans après les débuts d'Enrico Macias au début des années 60, eh bien, c'est Jean-Claude Ric qui prend le relais d'Anne Uruguen, qui était une des rares femmes arrangeuses de la chanson française.
Parce que les femmes ne sont pas légion.
Non, il n'y en a que trois dans le livre, mais il y en a deux, trois autres plus récentes qui sont également au travail à l'heure actuelle. C'est vrai qu'Anne Uruguen a été la toute première qui est arrangée pour Enrico Macias. C'était, à ma connaissance, la première femme arrangeuse, d'ailleurs. Bon. Et deux ans plus tard, à peu près, c'est donc Jean-Claude Ric qui a pris le relais d'Anne Uruguen. Et avec Enrico, ils ont enregistré des tubes énormes, comme Les gens du Nord. Les gens du Nord, c'est une collaboration étroite entre Enrico Macias, Jean-Claude Ric et le parolier Jacques de Marny. À trois, ils ont fait une chanson éternelle, on va dire. Voilà.
Et Juliette Gréco disait, on ne peut pas avoir l'émotion tout seul, l'émotion, elle vient du partage.
C'est ça, elle disait ça parce que quand elle enregistrait énormément de disques, elle avait besoin d'être avec les musiciens dans le studio, c'est-à-dire d'enregistrer en direct avec les musiciens qui jouent. C'est plus le cas maintenant, ou tellement peu souvent le cas, mais Juliette Gréco a toujours aimé, notamment avec son arrangeur François Robert, comme celui de Jacques Brel aussi d'ailleurs, a aimé être en symbiose avec les musiciens pendant la séance d'enregistrement. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup de chanteurs-chanteuses qui ont fait ça après. Il y en a, mais il y en a très peu. Jacques Brel, il avait besoin d'être dans le studio et chanter en même temps que l'orchestre. On vient d'écouter Édith Piaf. De la même façon, Édith Piaf était avec les musiciens pour chanter tout ce qu'elle a pu chanter, tous les grands succès que l'on connaît. Voilà.
Eh bien, on va écouter Enrico Macias.
Ah oui, ça s'impose.
Une chanson de l'exil, un thème malheureusement toujours d'actualité. Paris, tu m'as pris dans tes bras. Et Enrico
ben oui.
Macias.
Voilà.
J'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, et voilà, mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de Pierre, où l'on se sent étranger. Il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas. De passer à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières qui viennent là. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît du Four. J'ai fait danser pendant toute une nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la Seine m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras.
Enrico Macias, Paris, tu m'as pris dans tes bras, effectivement, une musique dans la musique.
C'est exactement
ça. Elles
sont
chacune au service de l'autre.
Mais c'est, tu as
c'est
parfaitement
ça le travail des arrangeurs.
Tu as parfaitement défini, on a bien entendu donc. Enrico Macias qui chantait la mélodie et les paroles, mais derrière ou en parallèle, il y avait une autre musique écrite par Jean-Claude Ric, mais qui s'accordait parfaitement avec la mélodie de la chanson « Paris, tu m'as pris dans tes bras ». Incroyable. Et c'est parfaitement harmonisé, on va dire. C'est l'harmonie totale.
Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle, Enrico Macias, pour trouver un musicien qui joue la guitare comme Enrico Macias, c'est absolument impossible.
C'est impossible, puisque je crois que c'est pour la chanson Les filles de mon pays, là, tu veux parler de ça.
Oui, là, c'était pour... oui, c'était pour voilà. Les filles de mon pays.
Voilà, il y a eu une chanteuse qui s'appelait, je dis qui s'appelait parce qu'elle est décédée, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Maya Casabianca, qui a voulu enregistrer Les filles de mon pays. Et Jean-Claude Ric était donc désigné pour écrire les arrangements pour Maya Casabianca de cette chanson d'Enrico, et il avait engagé, Jean-Claude Ric avait engagé un guitariste pour jouer ce que faisait habituellement dans sa chanson Enrico Macias. Mais là, le guitariste n'y arrivait pas du tout. Et donc, Jean-Claude Ric a dit au directeur artistique de Maya Casabianca, il faut absolument que l'on demande à Enrico Macias de venir faire lui-même la partition de guitare qu'il avait enregistré dans son interprétation à lui, Enrico Macias. Et Enrico est venu et a fait cet enregistrement dans la chanson de Maya Casabianca en montant Enrico Macias qui joue. Et je crois que c'est probablement à partir de ce jour-là que Enrico a voulu travailler avec Jean-Claude Ric, et ce qu'il a fait pendant des dizaines d'années.
On va revenir sur le cas Claude Ric et puis le cas de beaucoup d'autres arrangeurs qui sont cités dans ton livre. Claude Ric avait un passé de pianiste de jazz.
Tout à fait.
Est-ce que les arrangeurs ont permis, avant l'heure, de familiariser le public français avec la musique venue d'outre-Atlantique?
Mais certainement, parce que je le disais tout à l'heure pour Valberg, qui avait amené une touche jazz dans les arrangements pour Charles Trenet, à ses tout débuts donc de Charles Trenet. Là, Claude Ric avait commencé sa carrière de musicien, pas du tout comme arrangeur, mais comme pianiste de jazz, à Radio Alger notamment, puisqu'il est né en Algérie. Et ensuite, c'est sûr que connaissant cette musique jazz, il a forcément inclus dans ses arrangements une partie de jazzy, on va dire. Et d'ailleurs, Jean-Claude Rick ne le cache pas dans les interviews que j'ai faites de lui. Il me disait, pour mes arrangements au début de ma carrière, j'avais un grand professeur qui s'appelait Nelson Riddle. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est tout simplement l'arrangeur qui a énormément écrit des arrangements pour Frank Sinatra et pour Nat King Cole, c'est vous dire. Et Jean-Claude Rick s'inspirait à l'époque de ses débuts, au début des années 60, on va dire, quand Claude Rick a commencé à enregistrer beaucoup, notamment pour Josephine Baker d'ailleurs. Eh bien, Jean avait acheté des disques de Sinatra et il écoutait attentivement ce qu'avait écrit Nelson Riddle pour Sinatra. Et c'est un peu comme ça qu'il s'est fait la main, on va dire, sur les arrangements de jazzy pour des gens comme Josephine Baker, par exemple. Voilà.
Et alors, pour revenir à Enrico Macias, lui qui était de Constantinople, me semble-t-il.
De Constantine.
De Constantine, pardon.
De Constantine seulement.
De Constantine, c'est ce que je voulais dire.
Oui, oui.
Est-ce qu'ils vont aussi ramener de l'exotisme et puis l'Orient dans la guitare et dans le chant, parce qu'on parlait.
Mais oui, de toute façon, ce sont deux Algériens tous les deux. Donc ils amènent tous les deux de l'exotisme. L'un par la musique et les paroles, l'autre par l'interprétation de la musique, c'est évident. Et Jacques de Marny était aussi nord-africain, donc le parolier. Donc c'est une équipe qui a amené avec leur chanson du soleil.
Du soleil, oui.
Du soleil, voilà.
Ça fait beaucoup de bien. On va parler de Jacques Brel maintenant. Là, on est dans les années 60, c'est une décennie qui est particulièrement riche.
Très riche.
On pourrait y passer des émissions et des émissions.
Très riche.
Pour les arrangeurs, pour la musique pop, pour la chanson française.
Pour tout.
Donc on va parler de Jacques Brel avec comme arrangeur, lui, il a eu François Robert.
Totalement.
Un cas particulier.
Pendant pratiquement toute sa carrière discographique, sauf à ses tout débuts, Jacques Brel, parce que François Robert n'était pas encore capable d'écrire des arrangements, il était au conservatoire. Mais au tout début, Jacques Brel a été accompagné par le dénommé André Grassi pour son tout premier disque, puis un tout petit peu par Michel Legrand, quelques titres, et un tout petit peu par André Pop. André Pop, c'est celui qui a écrit la merveilleuse série de Piccolo Saxo et compagnie, que les enfants connaissent, ont bien connu et qui a pour certains été le point de départ de leur carrière. Certains musiciens comme Jean-Claude Petit n'ont pas peur de dire que c'est grâce à Piccolo Saxo et compagnie d'André Pop, donc, qu'il a voulu faire de la musique et des arrangements. Donc on revient à Jacques Brel maintenant, après donc André Grassi, Michel Legrand et André Pop, quelques morceaux, quelques disques dans les années, milieu des années 50. Très vite, en 57-58, c'est François Robert qui prend les manettes et qui les lâchera plus jusqu'au dernier disque de Jacques Brel. Voilà. Alors lui, c'est pas un autodidacte, c'est un monsieur qui a fait le Conservatoire de Paris, qui était très, très titré, on va dire, et qui avait une patte incroyable. C'est la même chose que certains, qui a donné à Jacques Brel un son incroyable dans ses arrangements.
Et puis, pas qu'un son, d'ailleurs, justement, on viendra du rôle des arrangeurs en dehors de la seule musique. On va écouter Mathilde, Jacques Brel.
Ah oui, ça j'adore, parce que là, avec Mathilde, on se rend compte du travail de l'arrangeur et du pianiste. Alors, écoutez bien le pianiste également.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Celui des noces et des festins, Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà.
Jacques Brel, Mathilde, morceau interprété en 1963, dont les arrangements sont signés
François Robert. Alors, R-A-U-B-E-R, hein, parce que souvent, on l'écrit, enfin souvent, de temps en temps, on l'écrit Robert comme le prénom, mais pas du tout, c'est R-A-U-B-E-R. Voilà, François. Un homme charmant, humble, incroyable, d'une culture phénoménale, qui a amené à Jacques Brel, donc tout le son que vous avez entendu. Alors, il y a bien sûr le piano. Alors, le piano était tenu par Gérard Joannest. Et Gérard Joannest a été quasiment le pianiste de Brel durant toute sa carrière en public à Brel. Hein, et c'est lui qui l'accompagnait pendant les tournées, c'était Gérard Joannest. Et Gérard Joannest, beaucoup plus tard, a été le mari, jusqu'à récemment, malheureusement Gérard Joannest est décédé il y a peu, et il a été le mari de Juliette Gréco, tout simplement. Voilà. Un couple de musiciens formidables.
Et Robert, il a aussi permis à Jacques Brel de progresser scéniquement et harmoniquement, je crois.
Oui, alors il y a une belle anecdote là. Effectivement, quand Jacques Brel a commencé à travailler avec François Robert vers 57-58, Jacques Brel utilisait la guitare, il se servait sur scène de la guitare. Et ça, ça insupportait totalement François Robert qui avait compris que sans la guitare, Jacques Brel pouvait interpréter scéniquement ses chansons de façon phénoménale, ce qui a été donc le cas, parce que Jacques Brel a été, on va dire, interdit de guitare sur scène par...
De manière autoritaire
là. Oui, non, je crois pas, non, je pense pas qu'on pouvait faire changer Jacques Brel de façon autoritaire. Mais François Robert lui a fait comprendre qu'on perdait énormément de ce que pouvait faire Jacques Brel sur scène avec la guitare qui l'encombrait. Et comme disait François Robert, il m'avait dit, il faut que tu enlèves, il disait à Jacques Brel, enlève-moi ce meuble que tu as sur le ventre, en parlant à Jacques Brel de la guitare. Et quand Jacques Brel a enlevé ce meuble qu'il avait sur le ventre, il a éclaté. On a vu superbement l'acteur qui était sur scène alors qu'il était bridé par cette guitare qui l'empêchait d'exprimer tout ce qu'il avait envie, tout ce qu'il avait comme possibilité d'expression, justement, scénique.
On doit l'intensité émotionnelle des interprétations de Brel à Robert.
Quelque part, oui, en tout cas sur scène, c'est sans aucun doute la vérité. Voilà.
Bon, on va parler maintenant un peu de Jean-Michel Defaille.
Ah, j'adore. Ce fut ma première victime.
On n'oublie jamais ses premiers amours. Et la radio, c'est aussi un laboratoire pour expérimenter.
Mais oui. Moi, j'ai fait beaucoup de radio dans les années 94, et à partir de 1994, alors curieusement, c'était Radio Plus à l'époque, et c'était...
Sur les ondes du 102.4
sur la FM. Sur 102.4 sur la FM, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire des émissions de radio et que j'ai interviewé ici à Évreux des gens comme François Robert dont on vient de parler, comme Jean-Michel Defaille, comme Jean-Claude Petit, et des dizaines d'autres qui sont tous venus dans les studios de Radio Plus à Évreux. Et je remercierai jamais assez monsieur et madame Haroux qui en étaient les responsables de m'avoir donné cette chance. Voilà.
Alors lui, Defaille, il est passionné par l'écriture des cordes et des cuivres.
Totalement. Beaucoup plus les cuivres. Il adore les cordes, c'est un maestro, mais il aime énormément les cuivres. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il écrit beaucoup pour les cuivres. Encore aujourd'hui.
Lui aussi vient du classique. On parlait justement pour la chanson populaire de lui attribuer ses lettres de noblesse. On ne peut pas évoquer Jean-Michel Defaille sans parler de son apport à l'œuvre de Léo Ferré.
Ah bah oui, c'est énorme.
Qu'est-ce qu'il apporte exactement, Jean-Michel
Defaille ? Alors, 10 ans avec Léo Ferré, déjà, il faut le souligner.
Là encore, on est sur une carrière, enfin sur un duo qui dure assez longtemps.
Ah oui, c'est comme Jacques Brel avec François Robert, comme tout à l'heure on parlait d'Édith Piaf avec Robert Chauvigny. Ce sont des associations de très longue durée parce que ça marche.
Et c'est des associations de bienfaiteurs dans tous les cas.
Mais totalement, pour nous, pour nos oreilles, c'est une association de bienfaiteurs. Ce sont des associations. Alors donc, pour revenir à Defaille, il a une maîtrise de l'orchestration pour cordes hors norme. Mais quand on entend les orchestrations qu'il a écrites pour Ferré, mais on pleure tellement c'est beau. Hein, il y a des poèmes de Verlaine que Jean-Michel Defaille a écrites pour Léo Ferré, mais c'est phénoménal. Hein, c'est phénoménal. Et donc, bon, il faut écouter. Alors, j'incite tous les gens qui connaissent bien Ferré à réécouter Ferré sous cette connaissance que c'est Jean-Michel Defaille qui, pendant 10 ans, parce qu'après, Ferré était un grand musicien lui-même, et donc il a repris lui-même l'écriture des arrangements de ses chansons après 1970. Hein, au départ, il y avait quelques arrangeurs qui l'ont aidé, surtout dont Paul Mauria d'ailleurs pour Joli Môme. Mais c'est vrai qu'à partir de 1960 et pendant près de 10 ans, c'est, je le répète, Defaille qui a fait les arrangements de Léo Ferré. Et après, Ferré a repris la main tout seul. Voilà, jusqu'au bout.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Léo Ferret, c'est extra, et tu me parlais des chœurs et des cordes qui sont absolument sublimes.
Ah oui, dans cet extra, il y a tout. Il y a déjà l'orgamon, hein, qu'on entend presque tout le long de cette chanson, c'est extra, de Léo Ferret. L'idée de Jean-Michel Defaille, avec cet organiste était Georges Arvanitas, qui était un pianiste de jazz formidable. Et donc, hormis les cordes, qui étaient aussi la spécialité de Jean-Michel Defaille, il y avait aussi presque tout le long de ce morceau, des chœurs. Et cette équipe de choristes a été vraiment... on a l'impression que c'est des chœurs qui changent à chaque fois qu'il y a un nouveau disque. Non, ils étaient une équipe et on les a entendus dans tous les disques de chanteurs des années 60-70, par exemple. Alors, il y avait comme choriste notamment Christiane Legrand, qui était la sœur de Michel Legrand, qui vient de disparaître. Elle aussi est malheureusement disparue il y a quelques années, mais c'était un des piliers de studio, Christiane Legrand, hein, avec une autre femme qui s'appelait Anne Germain, qui a fait également un nombre de disques incroyables pour divers chanteurs. On les entend dès partout, ces chanteuses et ces chanteurs. Il y avait aussi un monsieur qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, il est toujours vivant, Jean-Claude Briodin. Vous l'entendez dans un nombre incalculable de disques de chanteurs des années 60, 70, 80. Voilà. Donc, il faut savoir que c'était une équipe très soudée et qui parcourait studio après studio pour enregistrer, pour faire les chœurs dans toutes ces chansons connues des années 60, 70. Alors, il y a d'autres choristes qui se sont ensuite greffés. Et ce n'est pas toujours les mêmes pendant 50 ans. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu les Fléchettes, notamment avec Claude François et autres. Mais disons qu'au cœur de ces années 60, il y avait un groupe de choristes. Et c'est ce que me disait François Robert, l'arrangeur de Brel. Incroyable. Ils savaient lire la musique, ils ne répétaient rien. Ils étaient tellement doués qu'ils rentraient dans le studio, ils avaient leur partition et ils chantaient en direct. Il n'y avait pas de préparation, ou alors peut-être une répétition au moment où l'orchestre répétait, les chanteurs répétaient aussi, mais ils n'avaient pas les partitions la veille pour répéter, pour les chanter le lendemain, pas du tout, comme les musiciens d'ailleurs. Ce sont des gens tellement rompus au travail en studio qu'ils étaient capables de tout jouer en direct. Et après une première répétition tous ensemble, on va dire.
Et ça donne un aspect...
phénoménal.
Spontanéité absolument
mais
phénoménale.
Spontanéité phénoménale. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce que disent aussi les anciens qui sont encore de ce monde et qui travaillent encore un peu. La spontanéité, c'est le mot qui est intéressant, ce que tu viens de dire, ne peut plus exister aujourd'hui comme elle l'a été dans les années 60-70, parce que justement, aujourd'hui, on enregistre les cuivres d'un côté, la rythmique de l'autre, dans un autre moment, les cordes dans un autre moment, ensuite on réunit le tout. Donc ça n'est plus du tout pareil. Alors, c'est vrai que le son est peut-être meilleur encore qu'à l'époque des années 60 où tout le monde enregistre en même temps.
Plus digital, en tout cas.
Voilà. Mais ça n'a plus la même spontanéité que ces grands arrangeurs des années 60, 70, 80 avaient grâce à cet orchestre qui était réuni en studio tous ensemble. Voilà.
On les évoquera dans 15 jours, les enfants du numérique.
On parlait
de parfum, justement, les arrangeurs, avec les arrangeurs.
Oui.
Est-ce que c'est pas aussi le parfum d'une époque? Aujourd'hui, on vit peut-être, après, je vais pas en faire le commentaire, mais une époque peut-être un peu déshumanisée par rapport à celle des années 60. La musique, ça capte aussi le parfum d'une époque.
Tu as raison.
Et dans les années 60, il y a un parfum de liberté, quand
totalement,
même,
mais totalement. Totalement. Il y avait aussi, il faut le dire, beaucoup d'argent.
Et il y avait beaucoup d'argent.
Pour les studios, il y avait... exemple, quand Jean-Michel Defaille enregistrait avec Léo Ferret ses chansons, il avait un nombre de musiciens illimité, puisque Eddie Barclay, qui était le patron de la boîte, du label dans lequel enregistrait Léo Ferret dans ses années 60, avait dit à Jean-Michel Defaille, carte blanche, tu peux prendre 3 musiciens, 50, 80. Aujourd'hui, c'est...
Ce serait impensable aujourd'hui.
Mais totalement. Donc c'est vrai, c'est un parfum de liberté de cette époque.
Et puis bon, la crise du disque, on va l'évoquer, si évidemment dans 15 jours, elle a modifié en profondeur le
paysage.
Elle a aussi beaucoup changé
la donne.
Ça n'est
plus du tout la même chose.
C'est plus du tout la même chose. Ça passe très vite, Serge, avec toi.
Et avec toi aussi, je vais te dire la même chose. Moi.
On va terminer sur ce premier volet des deux émissions consacrées à ton ouvrage « Les arrangeurs de la chanson française » avec Paul Mauriat.
Formidable.
Donc Paul Mauriat, tu lui as consacré donc un livre en 2001. Quelques mots sur Paul Mauriat. Avec éclectisme et rigueur, tu avais mis dans ton livre.
Oui, éclectisme et rigueur. Et c'est vrai que c'est pas par hasard que ce monsieur Paul Mauriat, qui est décédé en 2006, qui était né en 1925, Paul Mauriat avait, lui, effectivement, par contre, n'était pas autodidacte. Il avait beaucoup travaillé au conservatoire de Marseille. Marseille a été le vivier de grands arrangeurs français. On en reparlera à la deuxième émission, si tu le veux bien. Et donc, Paul Mauriat avait cette rigueur qu'il avait apprise dans le classique, mais qu'il avait aussi mélangée au jazz. Et ça, il le dit, les deux canaux ont été très importants pour lui. On retrouve finalement toujours, dans la variété populaire à succès, ce mélange entre le classique et le jazz réuni par ces grands arrangeurs qui avaient une maîtrise tellement énorme de ce qu'ils écrivaient que ça donnait des succès de la chanson. Bien sûr que la mélodie du compositeur et les paroles de l'auteur étaient primordiales, et la voix du chanteur aussi, mais ils ont aussi eux-mêmes amené un plus. Et c'est je suis heureux d'avoir fait ce livre parce que je crois que c'est la première fois qu'on parle beaucoup des arrangeurs de la chanson française, parce que jusqu'à présent, presque personne, il ne faut jamais dire personne, presque personne n'en parlait. Et donc, ils sont mis à l'honneur et j'en suis vraiment très heureux.
Et il a amené vraiment, il a participé à confirmer le style de Charles Aznavour.
Ah oui, Paul Mauriat, ça a été les chansons de Charles Aznavour que tout le monde connaît, je l'ai déjà dit tout à l'heure, déjà La Bohème, La Mama et tellement d'autres. Mauriat a écrit 150 arrangements pour Charles Aznavour. Donc c'est énorme. C'est énorme. Voilà.
Eh bien, l'émission touche à sa fin. Serge, nous, on se retrouve dans 15 jours. Je te remercie une nouvelle fois de ta présence sur le plateau. On parlera donc de la fin des années 60, du début des années 70. Michel Colombier, Michel Legrand. Qu'en est-il aujourd'hui des arrangeurs dans le paysage musical? On se quitte avec celui qui chantait La Nostalgie et les Faubourgs de Paris, Charles Aznavour.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Serge. Hier encore, dans 15 jours. Bonne soirée à tous. Salut.
Au revoir.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? à présent mes 20 ans.